L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité aujourd'hui est Philippe Lévy, le directeur du département jeunesse du FSJU, le Fonds social juif unifié, à propos du baromètre FSJU de la jeunesse juive de France 2024, une étude toute particulière qui est sortie version papier, un dossier de plus de 56 pages. Alors, Philippe Lévy, bonjour.
Bonjour.
Alors, rapide présentation du Fonds social juif unifié, ça porte bien son nom, le social pour la communauté juive, pour tous les âges de la vie à travers différents départements et programmes. Qu'est-ce que vous avez, vous, de quoi vous avez envie de nous parler là maintenant? On sait qu'il y a en direction de la jeunesse, on va en parler pas mal, mais en règle générale, c'est le bien-être de la communauté juive ici, en France.
Oui, le bien-être de la communauté et puis le miroir que nous tournent nos jeunes sur leurs aspirations, leurs inquiétudes, leur façon d'appréhender une vie juive, apaisée, sereine, en France, ou dans un ailleurs. Et on va le voir avec l'enquête, cet ailleurs, il est là, il est à portée de main, c'est pas forcément Israël, ça peut être une expatriation, mais prendre le pouls de la jeunesse, c'est aussi dessiner la communauté de demain. Donc effectivement, il y a des départements qui sont forts, mais rien ne se fait sans appréhender de manière très organique ce que jeunesse veut, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette enquête, à laquelle on a donné beaucoup d'énergie parce qu'on y a renoué. Il faut dire qu'elle n'avait pas été mise en place depuis plus de 20 ans. Et il s'en est passé des choses en 20 ans.
Aujourd'hui, oui, justement, c'est la montée de l'antisémitisme, c'est l'après 7 octobre. Il y a toutes ces, on va dire, toutes ces motivations-là qui vous ont fait porter un regard particulier sur cette jeunesse qui va bien, qui va mal. On va l'établir après, on va en parler, bien sûr.
Oui, même avant l'impact du 7 octobre, la crise Covid, qui a laissé un sillage très délétère, et qui est d'ailleurs corroboré par la littérature sociologique. On voit que les jeunes ont pris cher. Hein. Pas de flirt, pas de bac, pas d'ordalie, hein, ces épreuves du feu où on devient jeune et adulte. Et puis même en amont, si j'ose dire, ces crises qui commençaient profondes à chahuter la société française. Donc effectivement, depuis 2000, les attentats terroristes. Et puis on n'oublie pas, bien sûr, tous ceux qui ont été assassinés, Ilan Halimi, bien avant le DJ Selam, etc. Tous ces signaux qui ont impacté lourdement la jeunesse. Et la jeunesse, c'est quoi? C'est une projection. C'est plus qu'une promesse, c'est une projection, c'est une vitalité. Et quand effectivement une jeunesse est ébranlée par des crises à répétition et par cette montée exponentielle de l'antisémitisme quasi endémique depuis les années 2000, eh bien ça forge des consciences. Et donc on peut dire que dès le plus jeune âge, quand un jeune est mis à l'école par ses parents, non pour des raisons d'excellence pédagogique dans l'école juive, mais pour des raisons de sécurité, parce que Dixit, c'est un sanctuaire, c'est presque un bunker, ça interpelle.
Aujourd'hui, justement, les jeunes élèves, alors vous avez fait votre étude, c'est menée à partir des 15 ans, mais on sait qu'aujourd'hui, les plus jeunes qui vont aux GAN, dans les crèches, dans les jardins d'enfants, sont accueillis par la police, par des militaires en Kalachnikov. Il y en a qui n'ont connu que ça, et c'est devenu presque une normalité, où aujourd'hui encore, quand ils vous en parlent, il y a eu quelque chose de révélateur, une peur, ils sont conscients que c'est lié, on va dire, à leur position de juif, à leur état de juif. Hein.
Complètement. Alors d'abord, ça intervient dans la psyché des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met les jeunes et on voit un courant de massification depuis les années 2000. Mais là, le principal motif, surtout après le 7 octobre, c'est de protéger les jeunes juifs. Qui sont d'ailleurs aussi assignés à leur judaïté depuis le 7 octobre dans les écoles publiques ou dans les écoles catholiques. Où on vient voir le jeune juif qui peut être déjudaïsé, laïque, et à qui on dit, toi aussi, tu es un bourreau d'enfants palestiniens. Dixit, encore une fois, sont des verbatims qu'on a eus aux prémices de l'enquête quantitative dans des panels, hein, dans des focus groups. On a voulu aussi savoir si les jeunes avaient une parole décomplexée. Je peux vous dire que sur l'antisémitisme, sur le mal-être, sur cette espèce de maranisation en cours, on rase les murs, c'est quelque chose qui est très prégnant. Et évidemment, un score important de harcèlement scolaire dans les écoles non juives, où on vient pointer du doigt le juif, si tant est qu'il ait un patronyme ou un gros nez. Parce qu'il faut savoir que les clichés encore sont légion dans cette société où on accuse le juif de tous les maux. Cette enquête elle a été menée sur les 15-25 ans, avec une sociologie, une méthodologie solide. On a eu plus de 1500 réponses, une enquête digne de ce nom. Estime qu'on a vraiment une base et un échantillon qui est bien réparti. Hein. On a les Parisiens, on a les gens de région, on a ceux qui sont à l'école juive, ceux qui sont à l'école privée, ceux qui sont à l'école publique, et puis aussi les niveaux d'obédience. classique,
religieux, hein,
on a dit ortho, etc. Donc pour nous, c'était intéressant de voir ce qui se mettait à l'œuvre sur une perception qui, après le 7 octobre, a effectivement sidéré tout le monde, mais qui, et ça c'est le bon enseignement de l'enquête, montre qu'il y a une fierté. Une fierté, on a été KO, mais on se tient debout. Donc de la peur, évidemment, parce qu'on ne s'est pas pointé sur une carte, ni Gaza, ni la Cisjordanie. Il y a un vrai travail à faire sur l'Asbara. Ça, on regrette que, d'ailleurs, toutes ces organisations sionistes n'aient pas plus, ne soient pas plus intervenues pour parler du conflit.
Donc pas d'argumentaire auprès des jeunes juifs pour se défendre, justement, dans les universités ou sur les réseaux sociaux.
Non, alors là, on le fait maintenant, parce que tout le monde s'est réveillé groggy, en fait. Tout le monde, toutes les associations, enfin, peut-être pas nous, parce qu'on avait travaillé Fonds Social Juif Unifié, des cycles de formation, etc. Mais quand les jeunes à l'école, et d'ailleurs vous savez qu'il y a une union lycéenne des Juifs de France, qui est un peu le bébé de l'UGF qui s'est créé, mais aussi dans les universités, quand il y a eu ce sentiment de solitude, avec une phobie scolaire qu'on retrouve dans l'enquête, mais aussi phobie universitaire, parce qu'on a peur d'avoir à en découdre avec des gauchos très, très énervés. Mais c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont en panne d'argumentation. Quand on leur dit aujourd'hui, avec une sémantique qui est complètement folle quand on y pense, hein, sur le génocide et sur l'apartheid, vous avez peu de jeunes, sauf ceux qui sont dans les sciences humaines ou en géopolitique, et qui sont un peu conscientisés, qui sont capables de tenir un débat, sauf que de l'autre côté.
Pas plus d'arguments. On a voulu faire des tables rondes avec des ultra-gauchisés, je ne sais pas comment on peut les appeler, ces groupuscules qui vont manifester tous les week-ends, en leur proposant d'en parler. Ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas voulu en parler parce qu'ils ont dit, vous êtes des adultes, on n'a pas les arguments que vous avez. Donc le dialogue est compliqué et difficile.
Hein. Oui, le dialogue, il est rompu. Et puis quand on essaie de se mettre sur un dialogue un peu scientifique, comme on le voit dans certaines émissions, alors c'est pas celle que les jeunes voient, mais c'est Société ou autre, ou c'est Ce Soir, où on a vraiment le temps long pour en discuter, là, ça devient compliqué parce que, encore une fois, nos jeunes ont le sentiment d'être juifs, ils sont bien dans leur tête, bien dans leur basket, ils sont fiers, mais ça suffit pas. Ça suffit pas d'aller en Israël passer ses vacances. Ça suffit pas d'avoir de la famille là-bas. Ça suffit pas.
Il n'y a pas ce sentiment d'appartenance,
si,
justement.
Si, très fort.
Si.
Mais connaissent-ils Jabotinsky ? Lisent-ils Agnon ou connaissent-ils simplement la plage Gordon et la fait le parti? C'est-à-dire qu'on a tout un courant qui a fait Taglit pourtant. Il y a une génération Taglit qui a la Havat Israël, qui a l'amour d'Israël, mais qui ne connaît pas le contraste et la rugosité de ce pays-là. Et qui, peut-être par une forme de Hasbara un peu, du coup, propagandiste, a vu un Eldorado et un refuge. Donc on a beaucoup de jeunes qui disent « le sol s'est dérobé sous mes pieds avec le 7 octobre parce qu'on pensait qu'Israël était un état refuge et qu'on serait protégé à jamais ». Et là, ils ont vu les failles. Et là, ils ont vu la fragilité. Mais dans un autre temps, ça les a confortés pour se battre, pour apprendre. Et il y a dans cette enquête quelque chose de formidable pour tous les éducateurs, pour tous ceux qui se mêlent un peu de cette jeunesse, c'est de se dire, là maintenant, il faut des programmes, des cycles de conférences, des écoles des cadres. Je sais que les organisations sionistes le font, en appelant ça Université Jabotinsky, en appelant ça École des cadres, je ne sais quoi, parce qu'on doit totalement rebooter le logiciel, avec l'aide, j'espère, de l'agent juif, de l'organisation sioniste mondiale. Il faut qu'on fasse union sacrée pour donner à ces jeunes, plus que l'amour, la connaissance fine d'Israël, et de pouvoir en débattre sereinement. Moi, je voudrais qu'il y ait une génération d'influenceurs qui soient à la radio, qui soient sur les réseaux sociaux et qui viennent contrefaire complètement les arguments.
Et qui sont sur les médias généralistes,
exactement.
Surtout.
Et sur leurs médias, eux, parce que tout ce qui se passe au niveau de la jeunesse, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas dans les tribunes de la presse quotidienne qu'on aime beaucoup, mais qui est réservée aux boomers, les millennials. Et quand vous voyez que les algorithmes, vous venez d'en parler, les amènent à des contre-vérités à la nanoseconde, c'est terrible. Je voudrais qu'une génération d'influenceurs bien, bien alignés puisse pouvoir créer des médias affinitaires qui vont rencontrer d'autres jeunes pour qu'effectivement il y ait une autre inflexion et qu'Israël ne soit pas voué aux gémonies.
Alors, on parlait de ce baromètre FSJU de la jeunesse juive, une analyse fine avec évidemment, comme dans tous les, toutes les courbes, tous les domaines possibles,
voilà.
Les graphiques. Alors, ça va au-delà également de la vie juive, de leur sentiment d'appartenance à Israël ou non. C'est aussi lié, on va dire, à la société civile, si je peux m'exprimer ainsi, en parlant d'addiction, en parlant d'harcèlement. C'est leur vie aujourd'hui, en 1924, ça c'est la boumeuse qui parle, en 2024, comment est-ce qu'ils se sentent? Ils sont bien dans leur basket? Est-ce que les problèmes de cette génération-là, liés également à l'écologie, à l'éco-anxiété, comme on appelle ça, à la montée évidemment des extrêmes. Ce sont en fait les mêmes inquiétudes que le reste de la population.
Ben vous avez raison, et vous avez tout dit, c'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir que l'enquête est inédite sur ce point-là, sur la promotion de la santé, c'est-à-dire sur la santé physique et mentale. Nous n'avions jamais pris le pouls de cette jeunesse, estimant avec les marqueurs de l'antisémitisme, d'Israël, de l'identité juive, que ça effaçait le bien-être. Ces jeunes se comportent, en tout cas sur les substances et la consommation, du cannabis, sur l'alcool qui est très fort. On atteint là des records autour de plus de 90% de consommation régulière d'alcool. Si des mères juives ou des pères juifs nous entendent ici, il faut s'en inquiéter parce que ce soit le mariage, la bar mitzvah, les fabringen, etc., le jeune est acculturé à l'alcool chez nous un peu trop vite et sans nuance. Le cannabis, on est à 46%, c'est quasiment un jeune sur deux. Ce qui montre bien la démocratisation de la substance aussi dans nos sociétés occidentales. Et il y a un sujet sur le harcèlement. Hein, plus de 37%, et encore quand on a fait les focus group, on était quasiment à 55%. Le harcèlement est une donnée importante.
Et qui n'est pas en lien avec leur judaïté.
Et là, je ne parle pas du harcèlement. Un harcèlement intra-jeune. Les jeunes ne se font pas de cadeaux. Et puis, un harcèlement quand on est différent. Donc c'est vrai que quand on est un enfant singulier, un zèbre, un indigo, un 10, un TDAH ou un non-binaire, que sais-je, on prend cher. Et ça, il faut que tous les éducateurs et tous les enseignants s'en mêlent un peu pour accepter que, bien sûr, il y a la force du collectif, mais que la singularité, elle peut éclore. On l'a vu avec les Paralympiques, et heureusement, ça a donné un bon coup de projecteur sur ces différences-là, pour travailler ces sujets qui sont des sujets qui, vraiment, peuvent aller loin, jusqu'à la phobie scolaire, on en parlait, mais aussi à des velléités suicidaires. Donc ça, c'est un sujet dont nous, on va s'occuper, on va, avec le Fonds social, prendre les choses... le taureau par les cornes, si j'ose dire, avec un programme qui s'appelle Horizon Enfance, qui met des infirmiers scolaires et qui met dans les établissements des psychologues. Et dans le cadre des mouvements de jeunesse, d'avoir une assistance psy à l'année, de faire des formations psycho-affectives, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un MeToo animateur aussi, hein, quand on voit les camps scouts. Enfin, vous savez, on a la chance d'avoir 18 000 gamins qui partent en colo. Les animateurs sont bénévoles, ils ont 16 ans, c'est le BAFA à 16 ans maintenant. Il y a peu de différence générationnelle entre un gamin de 12 et un gamin de 16 ans. Donc nous devons les former parce qu'on touche là à la protection de l'enfance. Donc tous ces sujets de fragilité, de vulnérabilité, etc., on doit y aller de manière professionnelle, sincère et surtout longitudinale pour que l'ensemble des accompagnateurs, des éducateurs, des aidants ne mettent pas comme l'autruche la tête dans le sable.
Et ce sont les départements du FSJU pour la jeunesse qui, eux, peuvent encadrer, intervenir dans ce genre d'événements. Vous parliez des éclaireurs, par exemple.
Alors là, il y a une espèce de trinité, une espèce d'union sacrée entre le département social, le département de l'éducation et le département de la jeunesse autour de ce programme Horizon Enfance. C'est donner des moyens aux éducateurs, aux enseignants, des moyens qui sont assez colossaux, hein, en termes... Je veux dire, quand on met des... Vous savez, aujourd'hui, dans les écoles, il n'y a pas tant d'infirmiers scolaires et de psychologues. Si une jeune fille veut, et notamment dans un milieu plutôt orthodoxe, a des questions sur sa vie sexuelle et affective, qu'elle ne connaît même pas ce que c'est qu'un gynécologue, et qu'on va se rendre compte qu'une IST, par exemple, une infection sexuellement transmissible, va courir à bas bruit parce que la nature a pris ses droits. Qu'est-ce qu'on en fait ? Encore une fois, la politique de l'autruche, où cette jeune fille peut aller à l'infirmerie, peut en discuter de manière tout à fait normée, préservée, parce que sinon, on va se rendre compte, notamment sur les franges les plus orthodoxes, tout ce qui touche à la vie affective et à la sexualité, c'est une bombe à retardement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal, notamment des directeurs, des chefs d'établissement qui n'ont pas voulu prodiguer l'enquête. Parce que quand ils ont vu les questions sur la santé sexuelle et affective, ils nous ont dit, non, vous parlez de contraception, vous parlez d'IST, vous parlez d'alcool, et il y a eu embargo. Donc il y a encore une petite marge de progression, mais je pense que tout le monde va finir par se dire que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on parlait du harcèlement, mais aussi de son bien-être, que d'appréhender de manière très honnête et très responsable tous ces sujets-là. Et c'est un petit peu le levier de ce baromètre. C'est un aiguillon pour dire, attendez, on ne peut pas, sur les substances, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, surtout sur l'alcool, sur le cannabis, sur le manque de cours qui sont obligatoires à l'école. Il y en a 5 dans tout le parcours, vous n'en avez fait que 2. Quand on voit les chiffres où on se rend compte que les jeunes, en tout cas sur les franges les plus orthodoxes, ignorent totalement tout ce qui touche à leur corps, là, il y a un sujet. Il y a un sujet où on est très en retard.
Il y a des verrous à faire sauter là, et ça va peut-être être complexe de rentrer en communication avec des encadrants, très religieux.
C'est pour ça qu'on va mettre dans le comité scientifique de plus en plus de personnalités qui vont aussi trouver le bon discours. Il ne s'agit pas de faire une espèce de boom ou de révolution. Dans l'éducation, on a le temps long. Là, on a un petit peu de retard sur ces questions-là et on espère qu'on aura des femmes et des hommes de bonne volonté pour intégrer ce comité scientifique qui aussi concède qu'elles sont un peu dépassées. Vous savez, il y a eu des scandales, hein. Je pense à la yeshiva de Bussière, etc. Aujourd'hui, ça se sait, la parole est décomplexée. Et je vous rappelle que le judaïsme, c'est aussi une forme d'exemplarité. L'essence juive, c'est de dire sur ces sujets-là, hein, on a eu Gamzon pour les scouts, on a eu Korchak, on a des grandes figures tutélaires de l'éducation, sur ces sujets-là, on n'a pas le droit d'être en retard. Et c'est ce que le baromètre essaie de raconter, de dire, on vous emmène dans cette ronde, mais encore une fois, c'est pour le bien-être de nos enfants.
Alors, ce baromètre richement illustré avec des articles également de grandes personnalités de la communauté juive. Il y a une page BD de Johann Sfar qui aujourd'hui est un petit peu l'idole. Oui, l'idole. Depuis le 7 octobre, il a quand même aujourd'hui amené des messages forts avec des dessins qui peuvent paraître souvent naïfs. Alors, ce baromètre, à qui est-ce qu'il s'adresse? Comment est-ce qu'il va être distribué? Et comment vous allez faire un outil pédagogique?
Alors, c'est un baromètre biennal. Ça veut dire qu'on va le faire tous les deux ans. Et on l'adresse à toute la communauté éducative, mais aussi à la puissance publique, puisque tous nos ministères auxquels nous sommes rattachés, alors là, il y a une nouvelle ministre de l'Éducation, un nouveau ministre Jeunesse et Sport, enfin, tous les secrétaires d'État, pour que, globalement, ils comprennent aussi que on fait une radioscopie de notre jeunesse. Attention, hein, c'est pas du triage ethnique, c'est pas pour dire que nos jeunes juifs sont isolés de la population générale, mais c'est quand même de montrer aussi, comme on a des alliances avec eux et une tutelle, je pense notamment à la relation avec les écoles juives, il y a ce sujet qui devient société. Et puis, entre les deux baromètres, on fera régulièrement des focus groupes, notamment des focus régionaux. Parce que tout le monde nous dit, mais j'aimerais bien savoir sur Strasbourg, dans l'Est. Bon, et ça, on va l'affiner. Et puis, on va animer un certain nombre de conférences pour créer aussi un rendez-vous de la parentalité. Parce que dans l'équation éducateur, animateur et enfant, il ne faut pas laisser de côté le parent. Le parent, il s'inquiète. Le parent, il est ingérant, il est intrusif. Il n'a toujours pas digéré le choc de la modernité. Je rêverais, même si l'expression est déjà arrêtée, de créer une école des parents juifs pour leur permettre, même si c'est une petite réunion Tupperware ou un déjeuner, de rencontrer des psys, des éducateurs qui les rassurent sur le fait quand même qu'on fait un bon taf, parce que le baromètre dit quand même que toutes ces décennies d'investissement éducatif sont payantes. Nos jeunes adorent leur famille, adorent leurs ascendants, ils les vénèrent, alors que partout ailleurs, c'est le conflit de génération.
Alors, on va parler du FSJU. Vous êtes le directeur du département jeunesse. Vous faites cause commune avec toutes les équipes. Ariel Goldman à la direction, Richard Audier en région également, comme ici en Alsace avec Laurent Gradvol. C'est cause commune, etc. Vous vous réunissez pour définir quelles sont les priorités à l'année peut-être du FSJU et là où il faut mettre l'accent et les moyens.
Absolument. Et cette enquête est d'ailleurs un des moyens, une des datas principales pour irriguer ce qu'on appelle une commission sectorielle qui va décider des grandes orientations. Donc là, par exemple, sur Horizon Enfance, on a vraiment un gros plan qui va prendre quasiment 10 ans pour installer ses rendez-vous et ses réflexes vertueux autour de la promotion de la santé. Laurent Gradvol, qui est aussi votre président et le délégué régional du Grand Est, est quelqu'un qui est aussi dans nos réflexions, puisque le premier séminaire INENI, le premier séminaire qu'on a fait avec l'ensemble des éducateurs, s'est fait à Strasbourg en 2018. Et là, on est vraiment dans l'éducation populaire. C'est-à-dire que On est dans un entonnoir renversé. C'est pas nous qui sommes les têtes pensantes, c'est la jeunesse, comme une espèce de parlement, qui les éducateurs, vous avez les adjoints pédagogiques, vous avez vraiment les gens qui sont très versés là-dedans, et qui nous disent, prenant le pouls du terrain, voilà quels sont les sujets. Et c'est eux qui nous amènent à apporter des dispositifs et des solutions, au-delà de l'argent, au-delà des bourses, bien sûr, et des financements. Et là, on a trois gros chantiers. Il y a la cohorte INENI, qui est en fait une école des cadres, pour préparer à ses influenceurs sur Israël. Donc vraiment 18 mois de programme avec des formations et des intervenants. Et sans spoiler, on peut dire qu'un certain Gabriel Attia va être aussi un des parrains de cette promotion, des philosophes, des journalistes, etc. Et puis Horizon Enfance, et puis il y a un autre sujet qu'on va aborder, notamment dans l'orientation qui nous mène à 2-3 ans, c'est de retravailler sur les summer camps, sur les colos. Il y a énormément de colos. Il y a des colos qui commencent à s'éloigner des valeurs juives, qui deviennent des espèces de gros machins commerciaux, où il n'y a pas le fair price, avec pourtant des familles qui doivent trouver aussi une respiration l'été. Donc retravailler le modèle économique des colos, retravailler ce qu'on appelle le label Noé des colos, qui offre des garanties de sécurité affective et physique aux enfants, pour les parents. Parce que si on perd les colos demain, s'il y a une inquiétude des parents qui n'emmènent plus leurs enfants... Il ne faut pas oublier que c'est dans l'écolo aussi où il y a de la vie juive. Il y a de la socialisation, il y a de la vie juive. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas conventionnel. C'est d'autres apprentissages. 18 000 gamins qui partent en colo, c'est plus qu'une chance. C'est pour nous une obligation de réussir ces colos et d'y mettre tout le monde. Il ne doit pas y avoir qui que ce soit sur le bas-côté pour des problèmes financiers ou de chita, comme on dit, c'est-à-dire de philosophie du centre de vacances.
Et évidemment, aujourd'hui encore, quand on entend parler les gens qui vont en colo, qui se sont rencontrés, ça crée une communauté, les EI, c'est pareil. Encore aujourd'hui, on entend parler et on parle de quelque chose de l'ordre du sacré. On sent que ça fédère et une communauté, mais même au-delà des valeurs simplement d'une comète et même plus. Philippe Lévy, bon, on arrive à la fin de cette interview.
Alors on peut retrouver le baromètre sur le site du Fonds Social. Voilà.
J'allais vous demander où est-ce qu'on peut le trouver. Donc sur le site du Fonds Social Juif Unifié, il y a un endroit physique où on peut le chercher.
Oui, alors vous faites www.fsju.org et puis dès que vous arrivez sur la page d'accueil, il y a un onglet qui s'appelle Jeunesse et tiens, ça tombe bien, enquête. Vous n'aurez pas cherché très longtemps.
On vous mettra le lien évidemment. Philippe Lévy, donc directeur du département jeunesse du FSJU, le Fonds Social Juif Unifié. Merci d'être passé
nous voir. Merci Valérie pour cette invitation.
On a l'habitude de vous entendre à l'antenne. Lunch by Noé, bon, on a la chance de pouvoir vous diffuser chaque semaine. En tous les cas, merci pour votre travail.
Merci à vous.
Et merci pour votre engagement auprès de cette belle jeunesse. Merci à vous.